Chapitre 5, journée militaire du 29 juillet. Le 29 vit paraître de nouveaux combattants. Les élèves de l'école polytechnique, en correspondance avec un de leurs anciens camarades, M. Charras, forcèrent la consigne et envoyèrent quatre d'entre eux, Messieurs Loton, Berthelin, Pinsonnière et Tourneux, offrir leur service à Messieurs Lafitte, Perrier et Lafayette. Ces jeunes gens, distingués par leurs études, s'étaient déjà fait connaître aux Alliés lorsque ceux-ci se présentèrent devant Paris en 1814. Dans les trois jours, ils devinrent les chefs du peuple, qui les mit à sa tête avec une parfaite simplicité. Les uns se rendirent sur la place de l'Odéon, les autres au Palais-Royal et aux Tuileries. L'ordre du jour publié le 29 au matin offensa la garde. Il annonçait que le roi, voulant témoigner sa satisfaction à ses braves serviteurs, leur accordait un mois et demi de paye, inconvenance que le soldat français ressentit. C'était le mesurer à la taille de ces Anglais, qui ne marchent pas ou s'insurgent s'ils n'ont pas touché leur solde. Dans la nuit du 28 au 29, le peuple dépava les rues de 20 pas en 20 pas, et le lendemain, au lever du jour, il y avait 4000 barricades élevées dans Paris. Le palais Bourbon était gardé par la ligne, le Louvre par 2 bataillons suisses, la rue de la Paix, la place Vendôme et la rue Castiglione par le 5e et le 53e de ligne. Il était arrivé de Saint-Denis, de Versailles et de Rueil à peu près 1200 hommes d'infanterie. La position militaire était meilleure. Les troupes se trouvaient plus concentrées, et il fallait traverser de grands espaces vides pour arriver jusqu'à elles. Le général Exelmans, qui jugea bien ses dispositions, vint à 11 heures mettre sa valeur et son expérience à la disposition du maréchal de Raguse, tandis que de son côté, le général Pajol se présentait aux députés pour prendre le commandement de la garde nationale. Les ministres eurent l'idée de convoquer la cour royale aux Tuileries, tant ils vivaient hors du moment où ils se trouvaient. Le maréchal pressait le président du conseil de rappeler les ordonnances. Pendant leur entretien, on demande M. de Polignac. Il sort et rentre avec M. Berthier, fils de la première victime sacrifiée en 1789. Celui-ci, ayant parcouru Paris, affirmait que tout allait au mieux pour la cause royale. C'est une chose fatale que ces races qui ont droit à la vengeance, jetées à la tombe dans nos premiers troubles et évoquées par nos derniers malheurs. Ces malheurs n'étaient plus des nouveautés. Depuis 1793, Paris était accoutumé à voir passer les événements et les rois. Tandis que, au rapport des royalistes, tout allait si bien, on annonce la défection du 5e et du 53e de ligne, qui fraternisaient avec le peuple. Le duc de Raguse fit proposer une suspension d'armes. Elle eut lieu sur quelques points et ne fut pas exécutée sur d'autres. Le maréchal avait envoyé chercher un des 2 bataillons suisses stationnés dans le Louvre. On lui dépêcha celui des 2 bataillons qui garnissaient la colonnade. Les Parisiens, voyant cette colonnade déserte, se rapprochèrent des murs et entrèrent par les fausses portes qui conduisent du jardin de l'Infante dans l'intérieur. Ils gagnèrent les croisées et firent feu sur le bataillon arrêté dans la cour. Sous la terreur du souvenir du 10 août, les Suisses ruèrent du palais et se jetèrent dans leur 3e bataillon, placé en présence des postes parisiens, mais avec lesquels la suspension d'armes était observée. Le peuple, qui du Louvre avait atteint la galerie du musée, commença de tirer du milieu des chefs-d'œuvre sur les lanciers alignés au carrousel. Les postes parisiens, entraînés par cet exemple, rompirent la suspension d'armes. Précipités sous l'arc de triomphe, les Suisses poussent les lanciers au portique du pavillon de l'horloge et débouche pêle-mêle dans le jardin des Tuileries. Le jeune Farcy fut frappé à mort dans cette échauffourée. Son nom est inscrit au coin du café où il est tombé. Une manufacture de betteraves existe aujourd'hui aux Thermopyles. Les Suisses eurent 3 ou 4 soldats tués ou blessés. Ce peu de morts s'est changé en une effroyable boucherie. Le peuple entra dans les Tuileries avec messieurs Thomas Bastide, Guinard, par le guichet du Pont-Royal. Un drapeau tricolore fut planté sur le pavillon de l'horloge, comme au temps de Bonaparte, apparemment en mémoire de la liberté. Des meubles furent déchirés, des tableaux hachés de coups de sabre. On trouva dans des armoires le journal des chasses du roi et les beaux coups exécutés contre les perdrix. Vieil usage des gardes-chasse de la monarchie. On plaça un cadavre sur le trône vide dans la salle du trône. Cela serait formidable si les Français aujourd'hui ne jouaient continuellement au drame. Le musée d'artillerie à Saint-Thomas-d'Aquin était pillé et les siècles passaient le long du fleuve sous le casque de Godefroy de Bouillon et avec la lance de François Ier. Alors le duc de Raguse quitta le quartier général, abandonnant 120 000 francs en sac. Il sortit par la rue de Rivoli et rentra dans le jardin des Tuileries. Il donna l'ordre aux troupes de se retirer, d'abord aux Champs-Élysées et ensuite jusqu'à l'Étoile. On crut que la paix était faite, que le dauphin arrivait. On vit quelques voitures des écuries et un fourgon traverser la place Louis XV. C'étaient les ministres, s'en allant après leurs œuvres. Arrivé à l'Étoile, Marmont reçut une lettre. Elle lui annonçait que le roi avait donné à Monsieur le Dauphin le commandement en chef des troupes, et que lui, maréchal, servirait sous ses ordres. Une compagnie du 3e de la garde avait été oubliée dans la maison d'un chapelier, rue de Rohan. Après une longue résistance, la maison fut emportée. Le capitaine Meunier, atteint de 3 coups de feu, sauta de la fenêtre d'un 3e étage, tomba sur un toit au-dessous et fut transporté à l'hôpital du Gros Caillou. Il a survécu. La caserne Babylone, assaillie entre midi et 1 heure par 3 élèves de l'école polytechnique, Vanneau, Lacroix et Douvrier, n'était gardée que par un dépôt de recrues suisses d'environ 100 d'hommes, le maréchal Dufay, français d'origine, les commandait. Depuis 30 ans, il servait parmi nous. Il avait été acteur dans les hauts faits de la République et de l'Empire. Sommé de se rendre, il refusa toute condition et s'enferma dans la caserne. Le jeune Vanneau périt. Des sapeurs-pompiers mirent le feu à la porte de la caserne. La porte s'écroula. Aussitôt, par cette bouche enflammée, sort le major Dufay, suivi de ses montagnards, baïonnette en avant. Il tombe, atteint de la mousquetade d'un cabaretier voisin. Sa mort protégea ses recrues suisses. Ils rejoignirent les différents corps auxquels ils appartenaient. Chapitre 6. Journée civile du 29 juillet. Monsieur Baude, Monsieur de Choiseul, Monsieur de Sémonville, Monsieur de Vitrolles, Monsieur Lafitte et Monsieur Thiers. Monsieur le duc de Mortemart était arrivé à Saint-Cloud le mercredi 28 à 10 heures du soir pour prendre son service comme capitaine des 100 Suisses. Il ne put parler au roi que le lendemain. À 11 heures le 29, il fit quelques tentatives auprès de Charles X, afin de l'engager à rappeler les ordonnances. Le roi lui dit « Je ne veux pas monter en charrette comme mon frère. Je ne reculerai pas d'un pied. » Quelques minutes après, il allait reculer d'un royaume. Les ministres étaient arrivés. Messieurs de Sémonville, Dargout, Vitrolles se trouvaient là. Monsieur de Sémonville raconte qu'il eut une longue conversation avec le roi, qu'il ne parvint à l'ébranler dans sa résolution qu'après avoir passé par son cœur en lui parlant des dangers de Madame la Dauphine. Il lui dit, Demain à midi, il n'y aura plus ni roi, ni dauphin, ni duc de Bordeaux. » Et le roi lui répondit, « Vous me donnerez bien jusqu'à 1 heure. » Je ne crois pas un mot de tout cela. La hâblerie est notre défaut. Interrogez un Français et fiez-vous à ses récits. Il aura toujours tout fait. Les ministres entrèrent chez le roi après M. de Sémonville. Les ordonnances furent rapportées, le ministère dissous, M. de Mortemart nommé président du nouveau conseil. Dans la capitale, le parti républicain venait enfin de déterrer un gîte. M. Baude, l'homme de la parade des bureaux du temps, en courant les rues, n'avait trouvé l'hôtel de ville occupé que par 2 hommes, M. Dubourg et M. Zimmer. Il se dit aussitôt l'envoyé d'un gouvernement provisoire qui s'allait venir installer. Il fit appeler les employés de la préfecture. Il leur ordonna de se mettre au travail comme si M. de Chabrol était présent. Dans les gouvernements devenus machines, les poids sont bientôt remontés. Chacun accourt pour se nantir des places délaissées. Qui se fit secrétaire général? Qui chef de division? Qui se donna la comptabilité? Qui se nomma au personnel et distribua ce personnel entre ses amis? Il y en eut qui firent apporter leur lit afin de ne pas désemparer et d'être à même de sauter sur la place qui viendrait à vaquer. M. Dubourg, surnommé le général, et M. Zimmer étaient censés les chefs de la partie militaire du gouvernement provisoire. M. Baude, représentant le civil de ce gouvernement inconnu, prit des arrêtés et fit des proclamations. Cependant, on avait vu des affiches provenant du parti républicain et portant création d'un autre gouvernement, composé de messieurs de Lafayette, Gérard et Choiseul. On ne s'explique guère l'association du dernier nom avec les 2 autres. Aussi M. de Choiseul a-t-il protesté. Ce vieillard libéral qui, pour faire le vivant, se tenait raide comme un mort, émigré et naufragé à Calais, ne retrouva pour foyer paternel, en rentrant en France, qu'une loge à l'opéra. À 3 heures du soir, nouvelle confusion. Un ordre du jour convoqua les députés réunis à Paris à l'hôtel de ville pour y conférer sur les mesures à prendre. Les maires devaient être rendus à leur mairie. Ils devaient aussi envoyer un de leurs adjoints à l'hôtel de ville afin d'y composer une commission consultative. Cet ordre du jour était signé J. Baude pour le gouvernement provisoire et colonel Zimmer par ordre du général Dubourg. Cette audace de 3 personnes qui parlent au nom d'un gouvernement qui n'existait qu'affiché par lui-même au coin des rues prouve la rare intelligence des Français en révolution. De pareils hommes sont évidemment les chefs destinés à mener les autres peuples. Quel malheur qu'en nous délivrant d'une pareille anarchie, Bonaparte nous eût ravi la liberté. Les députés s'étaient rassemblés chez M. Lafitte. M. de Lafayette, reprenant 1789, déclara qu'il reprenait aussi le commandement de la garde nationale. On applaudit et il se rendit à l'hôtel de ville. Les députés nommèrent une commission municipale composée de 5 membres, messieurs Casimir Perrier, Lafitte, de Lobau, de Schonen et Audry de Puyraveau. M. Odilon Barrot fut élu secrétaire de cette commission qui s'installa à l'hôtel de ville comme avait fait M. de Lafayette. Tout cela siégea pêle-mêle auprès du gouvernement provisoire de M. Dubourg. M. Mauguin, envoyé en mission vers la commission, resta avec elle. L'ami de Washington fit enlever le drapeau noir arboré sur l'hôtel de ville par l'invention de M. Dubourg. À 8h30 du soir, débarquèrent de Saint-Cloud M. de Sémonville, M. d'Argout et M. de Vitrolles. Aussitôt qu'ils avaient appris à Saint-Cloud le rappel des ordonnances, le renvoi des anciens ministres, et la nomination de M. de Mortemart à la présidence du Conseil, ils étaient accourus à Paris. Ils se présentèrent en qualité de mandataire du roi devant la commission municipale. M. Mauguin demanda au grand référendaire s'il avait des pouvoirs écrits. Le grand référendaire répondit qu'il n'y avait pas pensé. La négociation des officieux commissaires finit là. Instruit à la réunion Lafitte de ce qui s'était fait à Saint-Cloud, M. Lafitte signa un laissez-passer pour M. de Mortemart, ajoutant que les députés assemblés chez lui l'attendraient jusqu'à 1 heure du matin. Le noble duc n'étant pas arrivé, les députés se retirèrent. M. Lafitte, resté seul avec M. Thiers, s'occupa du duc d'Orléans et des proclamations à faire. 50 ans de révolution en France avaient donné aux hommes de pratique la facilité de réorganiser des gouvernements et aux hommes de théorie l'habitude de ressemeler des chartes, de préparer les machines et les berres avec lesquelles s'enlèvent et sur lesquelles glissent ces gouvernements. Chapitre 7. J'écris au roi à Saint-Cloud sa réponse verbale. Corps aristocratique, pillage de la maison des missionnaires, rue d'Enfer. Cette journée du 29, lendemain de mon retour à Paris, ne fut pas pour moi sans occupation. Mon plan était arrêté. Je voulais agir, mais je ne le voulais que sur un ordre écrit de la main du roi, et qui me donna les pouvoirs nécessaires pour parler aux autorités du moment. Me mêler de tout et ne rien faire ne me convenait pas. J'avais raisonné juste, témoin l'affront essuyé par messieurs Dargout, Sémonville et Vitrolles. J'écrivis donc à Charles X à Saint-Cloud. Monsieur de Givray se chargea de porter ma lettre. Je priai le roi de m'instruire de sa volonté. Monsieur de Givray revint les mains vides. Il avait remis ma lettre à monsieur le duc de Duras, qu'il avait remise au roi, lequel me faisait répondre qu'il avait nommé monsieur de Mortemart son premier ministre et qu'il m'invitait à m'entendre avec lui. Le noble duc, où le trouver? Je le cherchai vainement le 29 au soir. Repoussé de Charles X, ma pensée se porta vers la chambre des pairs. Elle pouvait, en qualité de cour souveraine, évoquer le procès et juger le différend. S'il n'y avait pas sûreté pour elle dans Paris, elle était libre de se transporter à quelque distance, même auprès du roi, et de prononcer de là son grand arbitrage. Elle avait des chances de succès. Il y en a toujours dans le courage. Après tout, en succombant, elle aurait subi une défaite utile au principe. Mais aurais-je trouvé dans cette chambre 20 hommes prêts à se dévouer? Sur ces 20 hommes, y en avait-il 4 qui fussent d'accord avec moi sur les libertés publiques? Les assemblées aristocratiques règnent glorieusement lorsqu'elles sont souveraines et seules investies de droit et de fait de la puissance. Elles offrent les plus fortes garanties. Mais dans les gouvernements mixtes, elles perdent leur valeur et sont misérables quand arrivent les grandes crises. Faibles contre le roi, elles n'empêchent pas le despotisme. Faibles contre le peuple, elles ne préviennent pas l'anarchie. Dans les commotions publiques, elles ne rachètent leur existence qu'au prix de leur parjure ou de leur esclavage. La Chambre des Lords sauva-t-elle Charles Ier? Sauva-t-elle Richard Cromwell, auquel elle avait prêté serment? Sauva-t-elle Jacques II? Sauvera-t-elle aujourd'hui les princes de Hanovre? Se sauvera-t-elle elle-même? Ces prétendus contrepoids aristocratiques ne font qu'embarrasser la balance et seront jetés tôt ou tard hors du bassin. Une aristocratie ancienne et opulente, ayant l'habitude des affaires, n'a qu'un moyen de garder le pouvoir quand il lui échappe. C'est de passer du Capitole au Forum, et de se placer à la tête du nouveau mouvement, à moins qu'elle ne se croie encore assez forte pour risquer la guerre civile. Pendant que j'attendais le retour de M. de Givray, je fus assez occupé à défendre mon quartier. La banlieue et les carriers de Montrouge affluaient par la barrière d'enfer. Les derniers ressemblaient à ces carriers de Montmartre qui causèrent de si grandes alarmes à Mademoiselle de Mornay lorsqu'elle fuyait les massacres de la Saint-Barthélemy. En passant devant la communauté des missionnaires, située dans ma rue, ils y entrèrent. Une vingtaine de prêtres furent obligés de se sauver. Le repaire de ces fanatiques fut philosophiquement pillé, leurs lits et leurs livres brûlés dans la rue. On n'a point parlé de cette misère. Avait-on à s'embarrasser de ce que la prêtraille pouvait avoir perdu? Je donnai l'hospitalité à 7 ou 8 fugitifs. Ils restèrent plusieurs jours cachés sous mon toit. Je leur obtins des passeports par l'intermédiaire de mon voisin, M. Arago, et ils allèrent ailleurs prêcher la parole de Dieu. La fuite des saints a souvent été utile au peuple. Utilis populis fuga sanctorum. Chapitre 8. Chambre des députés, M. de Mortemart. La commission municipale, établie à l'hôtel de ville, nomma le baron Louis commissaire provisoire aux finances, M. Baude à l'intérieur, M. Mériloux à la justice, M. Chardel au poste, M. Marchal au télégraphe, M. Bavou à la police, M. de Laborde à la préfecture de la Seine. Ainsi, le gouvernement provisoire volontaire se trouva détruit en réalité par la promotion de M. Baude, qui s'était créé membre de ce gouvernement. Les boutiques se rouvrirent, les services publics reprirent leur cours. Dans la réunion chez M. Lafitte, il avait été décidé que les députés s'assembleraient à midi, au palais de la Chambre. Ils s'y trouvèrent réunis au nombre de 30 ou 35, présidés par M. Lafitte. M. Bérard annonça qu'il avait rencontré messieurs Dargout, de Forbin-Janson et de Mortemart, qui se rendaient chez M. Lafitte, croyant y trouver les députés, qu'il avait invité ces messieurs à le suivre à la Chambre, mais que M. le duc de Mortemart, accablé de fatigue, s'était retiré pour aller voir M. de Sémonville. M. de Mortemart, selon M. Bérard, avait dit qu'il avait un blanc-seing et que le roi consentait à tout. En effet, M. de Mortemart apportait 5 ordonnances. Au lieu de les communiquer d'abord aux députés, sa lassitude l'obligea à rétrograder jusqu'au Luxembourg. À midi, il envoya les ordonnances à M. Sauveau. Celui-ci répondit qu'il ne les pouvait publier dans le Moniteur sans l'autorisation de la Chambre des députés ou de la Commission municipale. M. Bérard s'étant expliqué, comme je viens de le dire, à la Chambre, une discussion s'éleva pour savoir si l'on recevrait ou si l'on ne recevrait pas M. de Mortemart. Le général Sébastiani insista pour l'affirmative. M. Mauguin déclara que si M. de Mortemart était présent, il demanderait qu'il fût entendu, mais que les événements pressaient et que l'on ne pouvait pas dépendre du bon plaisir de M. de Mortemart. On nomma 5 commissaires chargés d'aller conférer avec les pairs. Ces 5 commissaires furent messieurs Augustin Perrier, Sébastiani, Guizot, Benjamin de Lesserre et Hyde de Neuville. Mais bientôt le comte de Sucy fut introduit dans la chambre élective. M. de Mortemart l'avait chargé de présenter les ordonnances aux députés. S'adressant à l'assemblée, il lui dit « En l'absence de M. le chancelier, quelques pairs, en petit nombre, étaient réunis chez moi. M. le duc de Mortemart nous a remis la lettre ci-jointe, adressée à M. le général Gérard ou à M. Casimir Perrier. Je vous demande la permission de vous la communiquer. Voici la lettre. Monsieur, parti de Saint-Cloud dans la nuit, je cherche vainement à vous rencontrer. Veuillez me dire où je pourrai vous voir. Je vous prie de donner connaissance des ordonnances dont je suis porteur depuis hier. » Monsieur le duc de Mortemart était parti dans la nuit de Saint-Cloud. Il avait les ordonnances dans sa poche depuis 12 ou 15 heures, depuis hier, selon son expression. Il n'avait pu rencontrer ni le général Gérard, ni M. Casimir Perrier. M. de Mortemart était bien malheureux. M. Bérard fit l'observation suivante sur la lettre communiquée. « Je ne puis, dit-il, m'empêcher de signaler ici un manque de franchise. M. de Mortemart, qui se rendait ce matin chez M. Laffitte lorsque je l'ai rencontré, m'a formellement dit qu'il viendrait ici. » Les 5 ordonnances furent lues. La première rappelait les ordonnances du 25 juillet. La seconde convoquait les chambres pour le 3 août. La troisième nommait M. de Mortemart ministre des Affaires étrangères et président du Conseil. La quatrième appelait le général Gérard au ministère de la Guerre. La cinquième, M. Casimir Perrier au ministère des Finances. Lorsque je trouvai enfin M. de Mortemart chez le grand référendaire, il m'assura qu'il avait été obligé de rester chez M. de Sémonville parce qu'étant revenu à pied de Saint-Cloud, il s'était vu forcé de faire un détour et de pénétrer dans le bois de Boulogne par une brèche. Sa botte ou son soulier lui avait écorché le talon. Il est à regretter qu'avant de produire les actes du trône, M. de Mortemart n'ait pas essayé de voir les hommes influents et de les incliner à la cause royale. Ces actes tombant tout à coup au milieu de députés non prévenus, personne n'osa se déclarer. On s'attira cette terrible réponse de Benjamin Constant. « Nous savons d'avance ce que la Chambre des Pairs nous dira. Elle acceptera purement et simplement la révocation des ordonnances. Quant à moi, je ne me prononce pas positivement sur la question de la dynastie. Je dirais seulement qu'il serait trop commode pour un roi de faire mitrailler son peuple et d'en être quitte pour dire ensuite « il n'y a rien de fait ». Benjamin Constant, qui ne se prononçait pas positivement sur la question de dynastie, aurait-il terminé sa phrase de la même manière si on lui eût fait entendre auparavant des paroles convenables à ses talents et à sa juste ambition ? Je plains sincèrement un homme de courage et d'honneur comme M. de Mortemart quand je viens à penser que la monarchie légitime a peut-être été renversée parce que le ministre chargé des pouvoirs du roi n'a pu rencontrer dans Paris 2 députés, et que, fatigué d'avoir fait 3 lieues à pied, il s'est écorché le talon. L'ordonnance de nomination à l'ambassade de Saint-Pétersbourg a remplacé pour M. de Mortemart les ordonnances de son vieux maître. Ah ! Comment ai-je refusé à Louis-Philippe d'être son ministre des Affaires étrangères ou de reprendre ma bien-aimée ambassade de Rome ? Mais, hélas, de ma bien-aimée, qu'en eussé-je fait au bord du Tibre ? J'aurais toujours cru qu'elle me regardait en rougissant. Chapitre 9. Course dans Paris. Le général Dubourg. Cérémonie funèbre sous les colonnades du Louvre. Les jeunes gens me rapportent à la Chambre des Pairs. Le 30 au matin, ayant reçu le billet du grand référendaire qui m'invitait à la réunion des pairs au Luxembourg, je voulus apprendre auparavant quelques nouvelles. Je descendis par la rue d'Enfer, la place Saint-Michel et la rue Dauphine. Il y avait encore un peu d'émotion autour des barricades ébréchées. Je comparais ce que je voyais au grand mouvement révolutionnaire de 1789. Et cela me semblait de l'ordre et du silence. Le changement des mœurs était visible. Au pont Neuf, la statue d'Henri IV tenait à la main, comme un guidon de la Ligue, un drapeau tricolore. Des hommes du peuple disaient en regardant le roi de bronze « Tu n'aurais pas fait cette bêtise-là, mon vieux !» Des groupes étaient rassemblés sur le quai de l'école. J'aperçois de loin un général accompagné de 2 aides de camp, également à cheval. Je m'avançai de ce côté. Comme je fendais la foule, mes yeux se portèrent sur le général. Ceinture tricolore par-dessus son habit, chapeau de travers renversé en arrière, corne en avant. Il m'avise à son tour et s'écrie « Tiens, le vicomte !» Et moi, surpris, je reconnais le colonel ou capitaine Dubourg, mon compagnon de gant, lequel allait pendant notre retour à Paris prendre les villes ouvertes au nom de Louis XVIII et nous apporter ainsi que je vous l'ai raconté la moitié d'un mouton pour dîner dans un bouge à Arnouville. C'est cet officier que les journaux avaient représenté comme un austère soldat républicain à moustache grise, lequel n'avait pas voulu servir sous la tyrannie impériale et qui était si pauvre qu'on avait été obligé de lui acheter à la friperie un uniforme râpé du temps de la réveillère Le Pau. Et moi de m'écrier « Eh, c'est vous ? Comment ?» Il me tend le bras, me serre la main sur le cou de Flankine, on fit cercle. « Mon cher, me dit à haute voix le chef militaire du gouvernement provisoire, en me montrant le Louvre. Ils étaient là-dedans, 1200. Nous leur en avons flanqué des pruneaux dans le derrière. Et de courir !» Les aides de camp de M. Dubourg éclatent en gros rires, et la tourbe de rire à l'unisson, et le général de piquer sa mazette qui caracolait comme une bête éreintée, suivie de deux autres rossinantes, glissant sur le pavé et prêtes à tomber sur le nez entre les jambes de leurs cavaliers. Ainsi, superbement emporté, m'abandonna le Diomède de l'hôtel de ville, brave d'ailleurs et spirituel. J'ai vu des hommes qui, prenant au sérieux toutes les scènes de 1830, rougissaient à ce récit, parce qu'il déjouait un peu leur héroïque crédulité. J'étais moi-même honteux en voyant le côté comique des révolutions les plus graves, et de quelle manière on peut se moquer de la bonne foi du peuple. Monsieur Louis Blanc, dans le premier volume de son excellente Histoire de 10 ans, publié après ce que je viens d'écrire ici, confirme mon récit. Guillemets. Un homme, dit-il, d'une taille moyenne, d'une figure énergique, traversait, en uniforme de général et suivi par un grand nombre d'hommes armés, le marché des Innocents. C'était de M. Évariste Dumoulin, rédacteur du Constitutionnel, que cet homme avait reçu son uniforme, pris chez un fripier, et les épaulettes qu'il portait lui avaient été données par l'acteur Perlet. Elle venait du magasin de l'Opéra-Comique. « Quel est ce général ? » demandait-on de toutes parts. Et quand ceux qui l'entouraient avaient répondu « C'est le général Dubourg !»« Vive le général Dubourg !» criait le peuple, devant qui ce nom n'avait jamais retenti. Entre parenthèses, j'ai reçu le 9 janvier de cette année 1841 une lettre de M. Dubourg. On y lit ces phrases. Combien j'ai désiré vous voir depuis notre rencontre sur le quai du Louvre. Combien de fois j'ai désiré verser dans votre sein les chagrins qui déchiraient mon âme. Qu'on est malheureux d'aimer avec passion son pays, son honneur, son bonheur, sa gloire, quand l'on vit à une telle époque. Avais-je tort en 1830 de ne pas vouloir me soumettre à ce que l'on faisait ? Je voyais clairement l'avenir odieux que l'on préparait à la France. J'expliquais comment le mal seul pouvait surgir d'arrangements politiques aussi frauduleux. Mais personne ne me comprenait. Le 5 juillet de cette même année 1841, M. Dubourg m'écrivait encore pour m'envoyer le brouillon d'une note qu'il adressait en 1828 à messieurs de Martignac et de Caux pour les engager à me faire entrer au Conseil. Je n'ai donc rien avancé sur M. Dubourg qui ne soit de la plus exacte vérité. Entre parenthèses, Paris, note de 1841, note de l'auteur. Fin des guillemets. Un autre spectacle m'attendait à quelques pas de là. Une fosse était creusée devant la colonnade du Louvre. Un prêtre, en surplis et en étole, disait des prières au bord de cette fosse. On y déposait les morts. Je me découvris et fis le signe de la croix. La foule silencieuse regardait avec respect cette cérémonie qui n'eût rien été si la religion n'y avait comparu. Tant de souvenirs et de réflexions s'offraient à moi que je restais dans une complète immobilité. Tout à coup, je me sens pressé. Un cri part. Vive le défenseur de la liberté de la presse! Mes cheveux m'avaient fait reconnaître. Aussitôt, des jeunes gens me saisissent et me disent « Où allez-vous ? Nous allons vous porter !» Je ne savais que répondre, Je remerciais, je me débattais, je suppliais de me laisser aller. L'heure de la réunion à la chambre des pairs n'était pas encore arrivée. Les jeunes gens ne cessaient de crier « Où allez-vous ? Où allez-vous ? » Je répondis au hasard « Eh bien, au palais royal !» Aussitôt j'y suis conduit au cri de « Vive la charte ! Vive la liberté de la presse ! Vive Chateaubriand !» Dans la cour des fontaines, M. Barba, le libraire, sortit de sa maison et vint m'embrasser. Nous arrivons au palais royal. On me bouscule dans un café sous la galerie de bois. Je mourais de chaud. Je réitère à main jointe ma demande en rémission de ma gloire. Point. Toute cette jeunesse refuse de me lâcher. Il y avait dans la foule un homme en veste à manches retroussées, à mains noires, à figure sinistre, aux yeux ardents, tel que j'en ai tant vu au commencement de la Révolution. Il essayait continuellement de s'approcher de moi, et les jeunes gens le repoussaient toujours. Je n'ai su ni son nom, ni ce qu'il me voulait. Il fallut me résoudre à dire enfin que j'allais à la chambre des pairs. Nous quittâmes le café, les acclamations recommencèrent. Dans la cour du Louvre, diverses espèces de cris se firent entendre. On disait « Aux Tuileries ! Aux Tuileries !» Les autres « Vive le Premier Consul !» Et il semblait vouloir me faire l'héritier de Bonaparte républicain. Hyacinthe, qui m'accompagnait, recevait sa part des poignées de main et des embrassades. Nous traversâmes le pont des Arts et nous prîmes la rue de Seine. On accourait sur notre passage, on se mettait aux fenêtres. Je souffrais de tant d'honneur car on m'arrachait les bras. Un des jeunes gens qui me poussait par derrière passa tout à coup sa tête entre mes jambes et m'enleva sur ses épaules. Nouvelles acclamations, on criait aux spectateurs dans la rue et aux fenêtres « À bas les chapeaux, vive la charte !» Et moi, je répliquais « Oui, messieurs, vive la charte, mais vive le roi !» On ne répétait pas ce cri, mais il ne provoquait aucune colère. Et voilà comme la partie était perdue. Tout pouvait encore s'arranger, mais il ne fallait présenter au peuple que des hommes populaires. Dans les révolutions, un nom fait plus qu'une armée. Je suppliais tant mes jeunes amis qu'ils me mirent enfin à terre. Dans la rue de Seine, en face de mon libraire, M. Lenormand, un tapissier offrit un fauteuil pour me porter. Je le refusai et j'arrivai au milieu de mon triomphe dans la cour d'honneur du Luxembourg. Ma généreuse escorte me quitta alors, après avoir poussé de nouveaux cris de « Vive la charte !» de « Vive Chateaubriand !» J'étais touché des sentiments de cette noble jeunesse. J'avais crié « Vive le roi !» au milieu d'elle, tout aussi en sûreté que si j'eusse été seul enfermé dans ma maison. Elle connaissait mes opinions. Elle m'amenait elle-même à la chambre des pairs, où elle savait que j'allais parler et rester fidèle à mon roi. Et pourtant, c'était le 30 juillet, et nous venions de passer près de la fosse dans laquelle on ensevelissait les citoyens tués par les balles des soldats de Charles X.
Thank you.